La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, aujourd'hui mardi, deuxième épisode de notre série dédiée à l'écrivain espagnol Georges Semprin. Si je n'avais pas écrit, j'aurais très mal fini, disait Georges Semprin. Et il est vrai que sa vie a été plus que chahutée, avec d'abord une mère qui meurt alors qu'il n'est encore qu'un enfant, puis la guerre d'Espagne qui conduit sa famille à s'exiler, l'entrée à 19 ans dans la résistance française et surtout, bien sûr, l'épisode de Buchenwald qu'il a raconté notamment dans l'écriture ou la vie de tout cela, mais également de son engagement dans le parti communiste clandestin espagnol et de ses 3 ans comme ministre de la Culture à Madrid. Nous avons parlé hier, c'était avec Gérard de Cortance et vous pouvez réentendre cette émission en podcast. Jeudi, c'est d'abord du public de Semprin dont nous parlerons. Qui sont les lecteurs de ces livres? Voilà la question que s'est posée Françoise Nicolazzi, qui a réalisé une étude pour l'apprendre. Et puis en seconde partie, Costa Gavras sera dans ce studio pour nous parler de sa collaboration avec Semprin, qui a travaillé avec lui comme scénariste sur plusieurs de ses films. Enfin demain, avec Régis Debray puis Corinne Benestroff, nous parlerons de la torture qu'a eu à subir Semprin, ainsi que du processus de résilience, à l'œuvre ou pas d'ailleurs, dans l'écriture. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous parlons de la question de la mémoire, de l'autobiographie, de la fiction. Bref, nous parlons du cœur de la problématique littéraire de Semprin, et notamment dans Le Grand Voyage et l'écriture ou la vie. Mon invité est Marta Ruiz-Galbete, maître de conférence à l'université de Grenoble. Elle est l'auteur de Georges Semprin, La mémoire de toute pièce, publié en 2016 aux éditions Horizon. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
J'ai vécu dans une famille intellectuelle avec un père qui écrivait, qui était professeur de droit, et une mère très cultivée et qui rêvait de destin comme ça brillant, artistique ou littéraire pour ses fils, et qui poussait tout ce qui pouvait être, tous les germes qu'elle pouvait voir dans ses enfants de créativité, pour employer un mot un peu snob, un peu cursi, comme on dit en espagnol, mais, et qui était très contente de voir qu'un tel faisait des poèmes et que l'autre commençait à faire des dessins, etc. Donc, depuis le début, j'ai voulu ça. C'est pour ça que, à 40 ans, je n'ai fait que retrouver une certaine vocation d'enfance et d'adolescence.
Bonjour Marta Ruiz-Galbete.
Bonjour.
Je dis Galbete, c'est pour que votre mère puisse comprendre, parce que vous m'avez dit tout à l'heure que si je prononçais simplement à la française Galbete, elle ne comprendrait pas de qui on parle.
Tout à fait, il faut que ma mère puisse me reconnaître, merci.
C'est la mère de Semprin, on vient de l'entendre, qui a encouragé la vocation d'écrivain de son fils. Il le disait dans cette archive, est-ce que pour vous c'est le cas ou est-ce que c'est une sorte d'affabulation ou un hommage à sa mère?
Je pense en partie, il y a une grande mythification de la figure maternelle chez Semprun, ce qui n'est pas en rapport avec sa disparition assez tôt. Mais il y a aussi les origines bourgeoises qui encourageaient ce type de rapport avec la culture, sans doute. C'est une question de milieu socioculturel familial.
Alors il y a un paradoxe. Voilà un écrivain qui dit avoir toujours voulu être écrivain, et pourtant, il ne s'est jamais senti tout à fait un écrivain. Comment expliquez-vous ce paradoxe-là?
Semprun le dit clairement, c'était, je pense, dans des entretiens à la publication de la deuxième mort de Ramon Mercader en 69, concrètement. Il dit que La littérature est en ce moment une action thérapeutique provisoire. Il dit aussi qu'elle a le sentiment d'avoir toujours été écrivain, mais en même temps de pouvoir cesser l'être à n'importe quel moment. Donc il faut comprendre qu'à ce moment-là, à peine sorti de la clandestinité communiste, bon, il a déjà publié trois livres, quelques scénarios, mais il y a une opposition implicite entre l'action politique et l'action littéraire. C'est dans ce contraste que cela se lit. En 1969, quand il dit ces petits extraits que je viens de citer, je pense qu'il se croit lui-même prêt à tout moment à cesser ou à mettre à nouveau en parenthèse l'action littéraire pour revenir à l'action politique.
Et pourquoi y a-t-il opposition implicite entre les deux ? On pourrait être un écrivain et en même temps un engagé dans la politique ?
Il a très bien réussi ce double engagement, par exemple avec l'autobiographie de Federico Sanchez, donc le roman consacré à son parcours dans le Parti communiste espagnol, qui a en même temps joué un rôle essentiel à la transition espagnole pour mettre un peu en pièce cette idée de l'eurocommunisme et du fait que l'ancien parti communiste qui avait conservé ses dirigeants depuis la fin de la guerre civile, qui avait traversé la période stalinienne, pouvait avoir un rôle à jouer déterminant même, comme on s'y attendait à l'époque, dans la construction de la nouvelle démocratie. Donc Semprún a certes réussi à concilier les deux, mais après, dans l'écriture, il les a aussi totalement dissociés et fait jouer un peu l'un contre l'autre.
Parce que vous diriez que durant la transition démocratique, le nom de Semprún, pardonnez-moi, je le prononcerai jusqu'à la fin à la française, est un nom qui est présent dans la tête, dans les têtes des Espagnols.
Absolument, ça. En 1977, donc on est avant la constitution de la démocratie qui a été votée en 78. Excusez-moi. Donc les élections qui ont eu lieu en 78, un peu avant tout cela. Semprún a gagné un prix qui était très médiatique, le prix Planeta, qui a eu aussi une projection, qui a donné une projection énorme à son livre sur le marché de l'édition avec un grand nombre de lecteurs. C'est pour ça aussi qu'un livre qui n'est ostensiblement pas un roman apparaît en Espagne aussi avec l'intitulé roman, parce que c'était un prix au meilleur roman. Et il y a certes un jeu d'écriture, de mise en récit de l'expérience communiste, mais c'est aussi un livre autobiographique par pseudonyme interposé, celui de Federico Sanchez. Et ce livre a vraiment donné place à une série d'entretiens en cascade dans tous les journaux, dans toutes les revues politiques de l'époque, à beaucoup de réflexions sur le rôle que le Parti communiste allait jouer dans les élections. Donc c'est plus se placer là un peu un analyste politique, un juge et parti de l'évolution eurocommuniste du parti.
Et il disait des choses sur le roi, par exemple. Il donnait son opinion sur cette période-là politiquement.
Pas sur le roi, non. Il donnait des opinions assez injurieuses, d'ailleurs, le ton est vif, sur les dirigeants politiques. Et c'est vraiment, s'il s'intitule donc autobiographie, c'est comme certains d'autres de ses livres, une autobiographie à thèse engagée, qui a pour but de prouver que le parti dans lequel il a milité, n'ayant pas fait un travail de mémoire sur son passé et son passé stalinien et ses méthodes de travail, des réflexions très dogmatiques, il ne devrait pas avoir de place dans l'Espagne démocratique.
Alors, on va continuer de parler évidemment de la politique, c'est toujours très important. Revenons un tout petit peu à la vocation d'écrivain de Semprún. Il écrit finalement tardivement, il publie son premier livre à 40 ans. Est-ce que vous diriez que tout de même, avant, il est déjà un écrivain et qu'il sait déjà qu'il va écrire un jour ou l'autre? Ou est-ce qu'à un moment donné, il a complètement pensé qu'il n'écrirait pas?
Alors on sait surtout, c'est que Semprún nous dit Et il dit toujours, de façon consistante et répétée, avoir toujours voulu être un écrivain. Donc, vu l'évolution de la chose, on n'a pas de raison de ne pas le croire. Maintenant, la question sur laquelle, moi, en tant que chercheuse, pas amie ou à géographe de Saint-Prun, je me pose des questions, c'est sur les raisons de cet atermoiement de l'écriture, hein, dont il en parle. Il crée tout un discours littéraire et très littératurisé, mais sur lesquels je pense qu'il faut creuser.
Qu'est-ce que vous voudriez dire alors sur ce sujet?
Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des raisons légitime d'un point de vue mémoriel, parce qu'il y a un oubli des camps qui est compréhensible chez les anciens déportés. Hein, il permet d'enrayer une expérience limite, d'établir une continuité avec celui qu'on a été. Après, c'est cette expérience parfois intolérable. Donc, parfois, il faut un temps de sécratisation mémorielle. Saint-Prun, il prétend aussi, par ailleurs, qu'il voulait raconter son voyage une fois que personne n'en parlerait plus. C'est pas tout à fait exact, puisqu'il y a une deuxième vague de retour sur la mémoire concentrationnaire à la fin des années 50, lorsqu'il y a les procès aux criminels de guerre. Donc, justement, le voyage, on en parle, hein, il y a la nuit d'Elie Wiesel, il y a deux prix concours en 59, 61, sur des ouvrages plus ou moins concentrationnaires aussi, romancés. Mais il y a aussi d'autres raisons qui ont plutôt trait avec sa conception de la littérature à l'époque. Il ne faut pas oublier qu'il est jeune communiste, militant stalinien, et à un moment donné, il y avait une volonté d'écrire sur les camps selon une certaine conception de la littérature et pour en tirer une leçon politique. Quelle pourrait être? Bon, si on se réfère à Miloš dans La pensée captive, il nous le dit très clairement. Quand un communiste des années 40-50 écrit sur les camps, il faut qu'il montre que les communistes forment des organisations clandestines, qu'ils les dirigent. Il faut aussi que tous les soviétiques aient un comportement, une force morale exemplaire.
C'est assez cohérent, en fait, avec toute la littérature communiste de l'après-guerre, qu'elle soit celle des camps ou pas celle des camps. Il y a toujours cette idée que quand on est un bon écrivain communiste, il faut d'abord parler des questions sociales et il faut montrer combien les communistes, finalement, ont raison. Il y a quand même cette idée un peu partout.
Il faut montrer aussi qu'il y a des différences de comportement entre les idées politiques et les agissements dans les camps. Donc, ce qui est important, en rebondissant sur ce que vous dites, mais ça n'a pas été, à mon sens, assez souligné, c'est que écrire après l'oubli du camp, ça revient aussi à prendre une distance avec cette conception de la littérature militante que pouvait avoir un communiste sur les camps et oublier un peu cette orthodoxie du souvenir qui reviendrait à décrire les camps comme il fallait les voir et pas tels qu'on les avait vus.
Parfois, ça me gêne d'ailleurs, parce que ça me gêne d'avoir cette référence à la biographie constamment, parce que je voudrais bien, je l'ai déjà dit quelque part, je voudrais bien qu'on ne mette pas la biographie en avant, qu'on dise, bon, il y a tel livre, et indépendamment de la biographie, il vaut ou ne vaut pas, il est bien ou... Enfin, n'importe quoi, bien sûr. Mais c'est vrai aussi, d'un autre côté, je comprends très bien que les gens s'intéressent à la biographie, parce que c'est vrai qu'elle est romanesque. Bon, je ne peux pas dire que j'ai travaillé comme bûcheron à 18 ans et après j'étais dans un cargo qui allait en Extrême-Orient comme, disons, la biographie classique de l'écrivain américain des années 30, nous pas, qui a été boxeur, bûcheron, correspondant de guerre, de théâtre, et après fini au bar du Ritz. Non, je n'ai pas cette biographie-là stéréotypée des années 30 américaines. Mais c'est vrai que la biographie est romanesque parce que l'histoire de qui entoure et qui pousse à cette biographie est remplie d'événements romanesques. La guerre civile espagnole, l'exil, la résistance, enfin, la déportation, la clandestinité en Espagne. C'est vrai que tout ça ne peut être que rempli d'épisodes romanesques. Oui, et même la façon, si vous voulez, de vivre la clandestinité communiste un peu particulière, parce que je ne suis pas un produit typique de l'appareil communiste. Je suis en effet un fils de la bourgeoisie cultivée qui vient dans l'appareil communiste, donc qui arrive dans l'appareil communiste avec dans ses poches des livres fétiches qui ne sont pas forcément Lénine, mais plutôt Kafka ou Guillou ou Robert Musil. C'est-à-dire, le rapport est tout à fait différent. Bon, alors ça c'est romanesque.
Vous écoutez la compagnie des auteurs, nous parlons de Georges Semprin avec Martha Ruiz Galbété. Ça vous intéresse beaucoup la question de l'autobiographie chez Semprin, Martha Ruiz Galbété. On peut dire qu'au fond, il n'y a quasiment que de l'autobiographie et en même temps, il n'y en a jamais réellement. Quelle est la problématique finalement sur ce thème-là ?
Il y a vraiment ce que j'appelle une pulsion biographique qui sous-tend l'ensemble de l'écriture et de l'œuvre.
C'est quoi une pulsion biographique ?
C'est un désir irrépressible de se dire, se raconter, revenir sur soi, incarner avec des pans de son vécu, y compris les personnages les plus romanesques.
C'est ça, même dans les romans qui sont censés être de la fiction pure.
Absolument, il y a un palimpseste biographique qui ressort très clairement dans certains personnages, dans des romans qui ne posent aucun problème de définition générique. Mais ça peut avoir la question de cette pulsion autobiographique traverse l'œuvre un côté un peu technique, hein, et on se demande quel est l'intérêt finalement. Voilà, il écrit des récits de vie, il écrit des romans personnels, c'est un grand livre, on a pu le dire, dont certains chapitres, un livre interminable, dont certains chapitres sont plus autoréférentiels.
Quand vous dites interminable, ça ne veut pas dire interminable à lire, ça veut dire interminable parce qu'on ne peut pas le terminer.
Désormais, il est terminé par fédateur, mais interminable dans le sens où il semblait inépuisable, plein de rebondissements qui expliquaient le retour nécessaire parfois dans le sens d'un dévoilement ultérieur d'une vérité d'un autre ordre, quoi, dans les livres successifs.
Mais quitte à raconter la même scène de façon différente et parfois en changeant une part de la substance. Je pense par exemple à l'épisode qui est un épisode réel où Semprin doit tuer un soldat allemand qui est, alors que lui est résistant, en train de se reposer en fait au bord d'une rivière. Il est en train de chanter. Et donc il se pose la question de savoir s'il va le tuer. Il décide de le tuer. Mais dans les différents livres de Semprin, il ne raconte pas cette chose-là de la même manière. Et il va jusqu'à changer les personnages. Donc c'est ça peut-être ce côté interminable de l'autobiographie de Semprin, cette manière de revenir toujours sur des mêmes événements en les changeant.
Là, on touche à plusieurs choses différentes. Par exemple, dans cet épisode auquel vous êtes allusion, il y en a d'autres. Il y a le copain juif de la résistance qui finalement n'en était pas un. C'était Julien Lebon. Il y a à un moment donné une restitution d'exactitude. Et Semprun commente, voilà la vérité totale d'un récit qui était déjà véridique. Alors, ça donne un peu l'impression, et ça fait partie du discours mémoriel de Semprun, que la réalité a parfois besoin de fiction pour devenir vraie. Et cela touche aussi, je reviens par là à la question de l'ambiguïté générique, à la question essentielle de la vérité, mais vérité versus ou par opposition à exactitude. Et à un moment donné, c'est vrai que quand on a souscrit un pacte autoréférentiel, quand on est dans une véritable autobiographie et qu'on a dit, voilà, dans ce livre, l'auteur est le narrateur et est aussi le personnage principal. Donc, ce n'est pas de la vraisemblance ou un effet des réels qu'on recherche, c'est vraiment l'image du réel. Et tout écart par rapport à ce pacte dans la fiction relève plutôt du mensonge que de l'invention, même si il persiste à dire que ça ne jure pas avec la réalité. Ça, c'est vraiment à creuser. Ça nous porte à dire des choses aussi qui, moi, m'étonnent un peu, comme que Semprun, c'est l'auteur du roman de sa vie.
Ça vous étonne ?
Ça m'étonne, mais j'en prends acte dans le sens où on a accepté un pacte de lecture par définition ambigu et avec des effets très concrets.
Ce qu'on peut dire en tous les cas, c'est que tous ces romans font référence, peut-être pas tous, mais ces romans les plus autobiographiques font référence à une partie de sa vie. Et il crée finalement une autobiographie par période, qui laisse d'ailleurs des trous assez importants, et d'autres moments qui sont quasiment surexposés.
Surexposés, tout à fait, dans le sens parfois d'une redite, d'une modification, voire d'une projection rétrospective, des signes qui font l'identité assumée au présent de l'écriture sur les épisodes du passé. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui sous-tend la quête, la pulsion autobiographique dont je parlais tout à l'heure, c'est une quête d'identité. Et cette quête d'identité n'est autre chose que la volonté, l'effort au fil du temps de rendre intelligible et d'affirmer des processus de désaffiliation et des nouvelles affiliations qui définissent des nouveaux signes d'identité. Et à terme, dans les derniers ouvrages, lorsqu'il y a vraiment un pacte d'autobiographie clairement souscrit...
À partir de quel ouvrage à peu près ?
Alors, à partir de Mon temps, la vie continue, là, il y a vraiment, même si c'est par personnage interposé, c'est une sorte, il considère comme une sorte d'alter ego, de frère d'expérience à Mon temps. Donc là, il y a un rapport, un pacte encore un peu problématisé, mais c'est un livre clairement autobiographique.
Donc 1983.
Exactement. Et donc à partir de là, il y a une nouvelle affiliation identitaire de Semprun comme ex-communiste, même apostat communiste, comme intellectuel bilingue, enraciné dans l'exil, ayant découvert les valeurs de la démocratie libérale. Et un peu plus tard encore, avec l'écriture de la vie, il y a surtout l'identité d'ancien déporté qui est projeté sur le devant de la scène, au présent de l'écriture, et qui est même projeté rétrospectivement comme seule identité pouvant offrir une vision récapitulative du moi.
Donc au fur et à mesure qu'il avance dans la vie, il intègre de nouvelles identités qui reprennent évidemment les mêmes faits, mais qu'il regarde différemment, ce serait cela ?
Ils reprennent les mêmes faits parfois et il les réinterprète, parfois il les réécrivent directement. Il y a vraiment des textes, des fragments écrits à différentes étapes dont la collation est vraiment très, très parlante, très illustrative. Mais il y a aussi des nouveaux effets hors cadre, parce que la mémoire rime avec passoire et elle est surtout filtrée par l'identité du présent.
J'ai vécu très longtemps sous pseudonyme, parfois qui n'était que des pseudonymes, comment dirais-je, virtuels, des noms d'emprunt utilisés pour la conversation et pour le contact avec les militants, qui n'étaient même pas les noms que j'avais dans mes fausses cartes d'identité espagnole. Dans le document national d'identité espagnole que j'avais extraordinairement bien falsifié par un artiste de génie qui était le faussaire en titre du PC espagnol, je n'avais jamais le nom de Federico Sanchez. Ça, c'était un pseudonyme de combat. Et puis, ce pseudonyme était connu de certains militants. D'autres, j'étais Federico Artigas. Pour d'autres, j'étais Agustín Larrea. Donc, il fallait que je me débrouille moi-même dans cette forêt de pseudonymes pour pas me tromper moi-même de pseudonyme quand je m'adressais à certains militants qui me connaissaient sous tel nom. Il fallait pas changer de nom parce que ça les aurait désorientés. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe ici, n'est-ce pas? Donc, c'était assez compliqué, mais c'est une question d'habitude.
Donc pour ajouter de la complexité, Maria Ruiz Galbete, dans la quête d'identité de Semprun, il y a en plus cette histoire des pseudonymes. Il y en a eu un nombre incalculable, j'en cite quelques-uns. Gérard Sorel, Manuel, Falco, donc Federico Sanchez, qu'on connaît bien, Jacques Grador, Camille Salagnac, Juan Larrea, Raphaël Artigas, Bustamante. Bon, je pourrais continuer. Ça doit être assez troublant, ça, quand on cherche son identité, de vivre avec un nombre de pseudonymes si important.
C'est paradoxal, ça peut être troublant, ça a un effet très romanesque, certes, mais ça a permis aussi d'avancer dans la quête d'identité d'une façon affirmative. C'est-à-dire, dans les premiers ouvrages de Semprún, jusqu'à plus ou moins, il y a vraiment un point d'inflexion dans les années 80, au moment où il sort de l'affiliation communiste, avec justement sur le plan référentiel « Quel beau dimanche » sur les plans de la fiction de l'Algarabia, donc 80-81. Semprún a problématisé toujours les pactes de lecture avec les pseudonymes. Donc est-ce que vraiment l'auteur est le personnage? Est-ce que le narrateur est l'auteur et le personnage? Bon, mais curieusement, c'était une façon d'isoler des facettes de la personnalité que ces pseudonymes recouvrent et cristallisent, des facettes d'expérience, pour s'en séparer, puisqu'il était dans des démarches de désaffiliation par rapport au communisme.
Mais il y a le pseudonyme littéraire, mais il y a les pseudonymes de la clandestinité. Est-ce que, avec tous les faux noms qu'il a portés, toutes les fausses identités qu'il a projetées dans le monde comme ça, est-ce qu'à un moment donné, il n'a pas eu cette espèce de syndrome qu'ont parfois les agents doubles, mais qui fait qu'à un moment donné, soit ils ne savent plus bien qui ils sont, soit ils préfèrent une identité qui est une identité fictive?
Je pourrais pas me prononcer sur les vécus de la clandestinité, mais surtout sur l'effet littéraire et la littératurisation de cette expérience. C'est ça qui compte quand on lit Semprún, je pense. Et le fait est qu'il maîtrise parfaitement cette complexité. Il en joue dans un dessin des clarifications de l'identité. Donc il y a des pans qu'on peut écarter. Il y a par exemple l'exemple très flagrant dans l'Algarabie de l'ancien antifranquiste, ancien résistant. À un moment donné, il le tue, le nom disparaît et avec lui la réalité qui lui est associée. C'est comme si un masque romanesque tombait avec le pseudonyme et désormais il pouvait avancer à visage découvert.
Peut-on raconter? Le pourra-t-on? Le doute me vient dès ce premier instant. Nous sommes le 12 avril 1945, le lendemain de la libération du Buchenwald. L'histoire est fraîche, en somme. Nul besoin d'un effort particulier. Nul besoin non plus d'une documentation de foi vérifiée. C'est encore au présent, la mort. Ça se passe sous nos yeux, il suffit de regarder. Ils continuent de mourir par centaines, les affamés du petit camp, les Juifs rescapés d'Auschwitz. Il n'y a qu'à se laisser aller. La réalité est là, disponible. La parole aussi. Pourtant, un doute me vient sur la possibilité de raconter. Non pas que l'expérience vécue soit indicible. Elle a été invivable, ce qui est tout autre chose. On le comprendra aisément. On peut toujours tout dire, en somme. Mais peut-on tout entendre, tout imaginer? Le pourra-t-on? Auront-ils la patience? La passion, la compassion, la rigueur nécessaire.
Un extrait de L'écriture ou la vie, lu par Guillaume Gallienne, Martha Ruiz Galbete. Alors ça c'est très important, vous avez commencé un petit peu d'en parler, d'ailleurs c'est tout en filigrane tout le temps de l'œuvre de Semprún, cette question de comment on doit raconter ce qui s'est passé dans les camps. Et pour lui, il y a au fond l'idée qu'on ne pourra pas raconter si on n'ajoute pas de l'artifice, qu'on ne peut pas se contenter d'un témoignage brut.
Oui, en effet, c'est une question qui a fait débat, je pense, dès les premiers témoignages, en 44-45, et qui suscitait à ce moment-là des réactions très différentes.
Et pourquoi dit-il ça, déjà, pour commencer? Pourquoi ne pourrait-on pas, finalement, livrer un témoignage? Et ça pourrait presque être de la littérature, d'ailleurs, certains l'ont fait.
Semprún le souligne, par ailleurs, il y a Rousset, il y a Anthelme, il y a Primo Levi, qui ont réussi à faire de l'expérience du témoignage une œuvre d'art très très vite, immédiatement. Bon, c'est tout le monde, cette maîtrise d'une expérience par ailleurs taraudante n'est pas donnée à tout le monde. Surtout dans le cas de Semprun, je l'ai déjà signalé, il y avait des considérations d'ordre politico-idéologique aussi dans ce que devait être ou quel dessin devait servir un récit des camps, du moins en 45-50. Après, l'enjeu est sensiblement modifié parce que dans les années 80, lorsque l'écriture ou la vie apparaît, un peu en préparation de ces climats de commémoration du cinquantenaire de la libération des camps, on est dans un moment d'émotion partagée, on est dans un moment de transmission d'expérience à des nouvelles générations, et surtout on est devant la fin de la mémoire charnelle. Les derniers témoins sont encore là, il faut en profiter, et c'est comme si vraiment Semprun ouvrait les écluses de sa mémoire et voilà, il y avait un flot qui déversait dont on devait socialement pouvoir en profiter, parce qu'il y avait un devoir des mémoires, une transmission nécessaire.
Mais alors, dans l'écriture ou la vie, il ne cesse de dire qu'il faut raconter avec suffisamment d'artifice pour que ça devienne de l'art. Comment faites-vous la différence, littérairement parlant, alors, entre Kertész, par exemple, et Semprun? Qu'est-ce qui différencie, quand on lit les deux textes, le fait que l'un se revendique de la littérature et l'autre se revendique davantage du témoignage?
Je pense que Semprun a touché avec la littérature à la transmission d'une façon qui était très conjoncturelle et qui a été très importante. Face aux nouvelles générations, on n'est plus dans la répétition de l'horreur, ça ne rajoute pas, ils l'ont étudié en cours d'histoire. En revanche, quand on dit que l'odeur du crématoire avait chassé les oiseaux sur la colline, il y a quelque chose d'un autre ordre qui se produit. Donc ça peut passer sans faire débat en 1994, et c'est d'ailleurs un atout supplémentaire d'un livre admirablement bien écrit. À d'autres moments, ça aurait fait débat, puisque on a vraiment en plus accusé les écrivains, les témoins, de fignoler, de faire de l'esthétique, qui avaient des positionnements moraux. Et puis c'était ça aussi qui permettait de mettre en question les témoignages.
La compagnie des auteurs. Mathieu Garrigou-Lagrange.
On va continuer de parler de tout ça avec vous dans la compagnie des auteurs, Maria Ruiz Galbete. Mais pour l'heure sur France Culture, c'est le moment de la chronique d'Olivier Mauny. Bonjour Olivier.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui, vous souhaitez évoquer la présence de l'art contemporain dans le roman d'aujourd'hui, à moins que ce ne soit la présence des artistes.
Les deux, Mathieu, ce qui est assez ambitieux parce qu'il y a beaucoup à dire, mais vous avez parfaitement raison de faire la distinction.
Merci.
Mais je vous en prie. Il ne faut en effet pas confondre les livres dont les personnages se meuvent dans le milieu de l'art contemporain, livres dont par ailleurs le plus souvent la structure romanesque demeure assez classique, avec des romans qui sont comme, je trouve pas d'autre expression, que traversés par les problématiques stylistiques et conceptuelles qui irriguent par ailleurs l'art contemporain. Ne pas confondre, pour être un peu plus précis, par exemple le Houellebecq de La carte et le territoire, par exemple, ou même le Art de Yasmina Reza, qui il est vrai n'est pas un roman mais une pièce de théâtre, mais bref, pour qui l'art contemporain est au mieux un sujet de moquerie d'ailleurs souvent, ou même le décor d'œuvres qui demeure formellement classique, avec le travail d'un Don DeLillo, par exemple, qui dans Point Oméga, je le rappelle, tourne autour du film du plasticien Douglas Gordon, 24 Hours Psycho, projeté au MoMA, qui dilate le psychose d'Hitchcock sur 24 heures, ou même avec les travaux de déconstruction narrative, pour aller vite, de l'Oulipo, et plus particulièrement de Georges Perec, qui est certainement l'auteur essentiel sur cette problématique.
Alors pourquoi aujourd'hui spécialement parler de ce sujet-là, Olivier ?
Parce que c'est mon bon plaisir d'abord, Mathieu, et puis bien peut-être entendu. Parce que quand même deux livres de cette rentrée d'hiver, qui est d'ailleurs par ailleurs pléthorique, se rattachent à cette double approche, et ces deux livres, je trouve, dont on n'a pas encore assez parlé. jamais trop tard pour bien faire. Dans le premier, qui est le premier roman de la jeune néerlandaise Ninia Weijers, vous excuserez la prononciation dont je ne suis pas sûr, qui s'intitule Les Conséquences, qui paraît chez Actes Sud, c'est l'héroïne Minnie qui, dès sa sortie de l'école des Beaux-Arts d'Amsterdam, devient une artiste conceptuelle renommée. C'est une photographe qui joue dans son travail avec l'idée de l'absence, des traces, on connaît tout ça. Bientôt, contre son gré, elle va se trouver hyper révélée, si j'ose dire, je n'en dis pas plus, exposée crûment. Comment réagira-t-elle? On parle dans ce livre de Beckett, de Bowie, on songe bien sûr à Sophie Cal, qui est un peu la mère pélican des rapports entre la littérature et l'art contemporain. C'est très troublant, très incarné, et d'une intelligence, je crois, qui ne se dément jamais.
Un autre livre?
Deuxième livre, le second plutôt. Troisième personne, le nouveau roman, puisque c'est ainsi qu'elle le nomme, même si c'est pas du tout un roman de mon point de vue, de la plasticienne et vidéaste Valérie Mregen. On connaît Valérie Mregen, qui a une carrière d'artiste très accomplie, notamment une grande rétrospective à la Galerie du Jeu de Pomme il n'y a pas si longtemps, et qui poursuit en parallèle une œuvre d'écrivain composée de petites autofictions méticuleuses où le réel, à force d'être scruté, apparaît comme piégé. Ici, en fait, de réel piégé, c'est l'étrangeté quotidienne de l'arrivée d'un enfant. Pas de vulgarité psychologique, juste une narration très frontale, une cosa mentale, si j'ose dire, au bénéfice du beau et du bizarre.
Alors quels sont dès lors les grands livres, pour reprendre vos deux critères, qui répondent à ce désir d'art contemporain dans le roman d'aujourd'hui?
Alors, je crois qu'on a tous les nôtres, nous, lecteurs, lectrices. Pour ma part, donc, le choix est partial. Pour ce qui concerne les livres qui mettent en scène des personnages d'artistes, comme on l'évoquait tout à l'heure, j'évoquerai peut-être le gros et ample roman américain de Rachel Kushner, Les Lance-Flammes, dont on avait beaucoup parlé lorsqu'il était sorti en France il y a 2 ans. Il est désormais disponible en collection de livres de poche. C'est un tableau d'époque, celui de la scène artistique de la fin des années 70 à Soho, New York, autour d'une jeune femme qui aime la photographie, la vitesse et la moto. Autre roman sur lequel je voudrais insister particulièrement, chef-d'œuvre passé scandaleusement inaperçu, La Maison engloutie chez Actes Sud, pardon, du Hollandais Tommy.
Qu'est-ce que vous dites?
Du Hollandais Tommy Wieringa. L'histoire d'un homme, un enfant des années 70, fils d'une ex-star du porno, qui vit par et pour rejoindre les traces de son père qu'il n'a pas connu dans un Los Angeles comme accablé de solitude. Une histoire d'amour finira par le rapprocher de la figure du père, un artiste nihiliste qu'il n'a pas connu et qu'il va traquer jusqu'au fin fond de l'Amazonie. Présenté comme ça, ça paraît un peu confus. On songe à la lecture au couple improbable que formèrent un temps La Cicciolina et Jeff Koons, mais ça va bien plus loin et c'est bien plus beau que ça. Voilà, conclusion Mathieu, puisqu'il n'y a, si j'ose dire, de contemporain que ce qui s'apprête par définition à ne plus l'être, la littérature comme l'art se nourrissent de cette magnifique inactualité.
Eh bien, merci Olivier, et à très bientôt à ce même micro. Continuons de parler de Georges Samprin dans la compagnie des auteurs avec Martha Ruiz-Galbété, auteur du livre Georges Samprin, La mémoire de toute pièce. J'ai essayé de me lancer dans une prononciation Jorge, c'est très difficile. C'est bien de la mémoire en effet qu'il est question avec Georges Samprin, qui en fait sa matière première, il le disait encore à Odile Ambry en 1995.
Non, on ne peut pas oublier, et puis c'est une mémoire qui est inépuisable, c'est-à-dire que il vous arrive tout le temps de voir émerger un souvenir oublié, enfin un souvenir oublié, un souvenir de quelque chose qui avait été oublié, complètement oublié.
C'est comme ça que vous avez écrit, hein, c'est des souvenirs qui sont dans des
J'ai
souvenirs,
J'ai écrit par ce espèce de procédé de dire les choses pour voir comment chaque chose attirait comme une grappe des choses autour, essayer de faire sortir du néant, de l'oubli, le plus de choses possible. Mais vous savez, le problème, c'est que plus on écrit, plus on se souvient.
Oui, ça, j'ai bien compris. Je me suis dit qu'il y a eu des moments où vous avez dû vous limiter.
On s'attelle à une tâche interminable. Alors maintenant, au lieu de s'épuiser, la mémoire s'enrichit en écrivant. Et j'ai plus de choses à dire après avoir fini l'écriture de la vie qu'avant de l'avoir commencé.
C'est pour ça que vous ne pouvez pas promettre que ce ne sera qu'une trilogie.
C'est pour ça que je ne peux pas promettre que ce sera qu'une trilogie.
Mais est-ce que c'est tout de même, au bout de 3 livres, et peut-être celui-là était là aussi un peu différent des deux autres, a-t-il été écrit différemment, est-ce que vous ressentez quand même cette forme de thérapeutique, soit, soit d'aider à l'oubli, soit d'aider à vivre, que, à laquelle vous ne croyiez pas au début?
Tout à fait. Maintenant, oui, tout à fait. Maintenant, tout à fait, je sens que c'est une chose qui a vraiment permis le, non pas l'oubli, parce que maintenant, la preuve que ça a réussi, c'est que je peux me souvenir et vivre. Et normalement, disons, sans.
Et. C'est ce qu'on appelle le deuil, non?
C'est ce qu'on appelle le deuil. Ce qu'on appelle le travail de deuil, absolument.
Finalement, Martha Ruiz-Galbété, toute l'œuvre de Semprin est faite de cette matière première, je le disais, qui est la mémoire. Et c'est finalement le cœur aussi de votre livre.
Oui, en effet. Semprin parle de mémoire inépuisable, mémoire insolente, du fait qu'elle s'est nourrie par l'écriture, qu'il a plus de souvenirs que s'il avait 1000 ans. Il parle aussi du fait que c'est du temps de la clandestinité qu'il a pu développer une telle mémoire prodigieuse parce qu'il fallait pas noter des choses. Mais ses discours sur l'exactitude de la mémoire, comme si c'était pas un processus, mais plutôt un continent dans lequel l'expérience est figée, inamovible, même s'il n'est plus la même personne qui se souvient 20 ans plus tard, ce n'est qu'une facette. Il y a aussi, bien sûr, les œuvres des mémoires qui posent la question de justement l'ambiguïté générique, qu'est-ce qui est autobiographique, qu'est-ce qui est plutôt fictionnel. Il y a des œuvres pour mémoire, contre l'oubli, contre l'anti-mémoire communiste aussi. Mais il y a aussi une facette très importante qui, moi, m'a beaucoup intéressée, c'est la mémoire à l'œuvre dans l'écriture. C'est-à-dire cette façon d'agencer le récit, dynamité par l'anachronisme, par l'irruption de souvenirs, qui ne doit absolument rien au hasard, qui est au contraire une sorte d'agencement mémoriel, d'agencement du récit très réfléchi et aux effets des sens bien calculés.
Et comment travaillait-il cela? Est-ce que vous avez pu étudier précisément le processus?
Il y a deux étapes. Encore une fois, il y a vraiment un clivage dans son œuvre dans les années 80 qui ont à voir avec la désaffiliation totale communiste, plutôt l'apostasie communiste, le renversement total des signes d'identité. Et je dirais que c'est lié aussi à vraiment la façon d'aborder le personnage. Mais donc, en effet, dans la première partie de son œuvre, jusqu'à ces années 80, il y a une architecture mémoriale très complexe. Il y a toujours une sorte de séquence un peu anecdotique dont on dirait que la reconstitution linéaire est l'enjeu apparent. À partir de là, il y a plusieurs plans intermédiaires, des renvois. Et dans ces deux plans, l'anachronisme fuse avec une force centrifugeuse énorme. Il dit lui-même, les souvenirs explosent en gerbe. Et donc, il dynamite de l'intérieur l'ordre chronologique. Il dit d'ailleurs, de façon assez humoristique, je crois que c'est une convention, l'ordre chronologique, comme la monogamie.
Il dit aussi, sait-on jamais quand commence une histoire? Et il a raison. On ne sait jamais quand commence une histoire.
On ne sait jamais quand commence une histoire, sauf que quand on décide comment la raconter et dans quel ordre, on est déjà en train de l'interpréter.
Oui, mais quand commence une histoire autobiographique, c'est différent parce que, en l'occurrence, tout s'enchaîne dans une vie. Donc savoir quel est le point de départ, c'est en effet, si on souhaitait faire une œuvre chronologique, ce serait en effet très compliqué.
C'est une convention qui me semble moins travaillée que le désordre concerté que Semprun met en avant. Encore une fois, je répète, ce qui est important dans la mémoire, c'est que c'est une sorte de syntaxe signifiante. Les associations qui ont l'air fortuites ne le sont pas du tout. On peut incruster dans un souvenir passé par un je serré, prolepse, analepse, bon, ça a l'air un peu technique, mais par la disruption du temps, par ce travail de domptage qu'il fait du temps, pour faire éclore un nouveau sens, c'est que l'expérience, c'est que restituer les défauts d'information du narrateur et incruster cela dans le moment du récit et non pas dans celui de la narration. C'est très réfléchi tout ça.
La mémoire, vous avez dit aussi, Martha Ruiz Galbete, qu'elle changeait, et notamment qu'elle changeait après que l'expérience communiste est devenue finalement très déceptive. Il y a des scènes assez fortes pendant lesquelles Semprin découvre et raconte qu'il découvre ce qui s'est passé en Union soviétique, et notamment en lisant Solzhenitsyn. Et là, il se rend compte que ce qu'il soutenait, lui, le communisme, créait aussi des camps de concentration. Et du coup, là aussi, c'est un renversement total du jugement sur le passé. C'est un renversement total de son identité et peut-être de sa mémoire.
En effet, ce qui est important lorsqu'on est intellectuel et qu'on se lance dans une réflexion autobiographique, c'est de restituer une sorte de chronologie intellectuelle de façon exacte, honnête. Surtout quand on a fait vraiment, on s'est donné la mission de lutter contre l'anti-mémoire communiste qui est mensongère, qui est pragmatique, qui fausse. Il y a vraiment cette idée de Staline avant Photoshop qui gommait Beria des photos. C'est ça la mémoire communiste. Et Semprun se présente comme le contraire de tout cela. Alors je pense que ça oblige une certaine honnêteté intellectuel dans la restitution de ce schéma de désaffiliation. Et justement, c'est là que Semprun joue avec grande adresse des kaléidoscopes temporels et des souvenirs qui sont parfois avancés par préparation, qui sont parfois, donc les conclusions, ces conclusions des déceptions de l'Union soviétique sont parfois avancées sous forme, dans le présent de l'écriture, si j'avais su à l'époque, si j'aurais, dans un conditionnel passé qui est très significatif. Mais effectivement, on peut dire que c'est vraiment dans les années 80, dans Quel beau dimanche, que la désaffiliation communiste est consommée. Il y a même dans cet ouvrage, alors que Semprun est exclu du parti en 63, mais qu'il ne se considère pas pour autant communiste. Il est dans la quête du bon parti. Le vrai communiste, c'est lui face aux apparatchiks. Il y a toute l'illusion du réformisme qu'on enterre en France plus ou moins après le coup de Prague en 68, mais que lui, il fait encore durer du fait que Franco était encore en Espagne au pouvoir.
Donc reste communiste à cause de Franco.
En un sens, il y a une fidélité à la militance, à l'ensemble des militants communistes. Au-delà du parti, il a déjà certainement coupé les ponts avec le parti, avec le stalinisme, bien entendu. Il y a eu un travail de deuil, effectivement. Mais avec le communisme, c'est lié à l'Espagne, c'est lié au combat antifranquiste. Donc, cela s'est défait en 77. Cela s'est défait avec la mise de Federico Sanchez au placard, et après peut apparaître vraiment une sorte de nouvelle affiliation qui s'inscrit par ailleurs dans l'antithèse de ce qu'avait été sa filiation communiste. Il devient il devient apostate avec une différence considérable de temps par rapport aux premiers apostates des années 40.
Je crois que je suis arrivé au bout de quelques années à ce que personne qui ne me soit intime, donc qui ne me connaisse vraiment, ne pouvait soupçonner que j'avais été déporté. Si les hasards de la conversation ne poussaient pas vers ça, ou si quelqu'un ne disait pas « Mais à propos, toi, qui sait ou qui a connu ?» Personne ne pouvait le savoir. Il m'est arrivé d'avoir des conversations comme ça dans des salons, dans des gens, et d'écouter parler des camps, et d'être très intéressé, mais sans intervenir, parce que... Voilà. Et puis, les années ont passé, et puis en Espagne, j'ai vécu dans un appartement clandestin qui était tenu par des Espagnols, un couple, le mari de ce couple. L'homme avait été déporté longtemps dans un camp où il y avait beaucoup de républicains espagnols, un camp d'Autriche qui était très 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 mauvais, très dur, classé dans la catégorie des camps vraiment à 4 étoiles de l'horreur, par les Allemands eux-mêmes dans leur catégorie des camps, et c'était le camp de Mauthausen. Et le soir, il ne savait pas du tout que j'avais été déporté, il ne savait pas du tout qui j'étais, il savait simplement que j'étais un responsable du parti que lui avait pour mission d'héberger dans cet appartement clandestin. Et le soir, il me racontait les camps. Il racontait comme on raconte les choses, comme ça, c'est-à-dire dans le désordre, dans le fouillis, etc. Et il ne savait pas que je connaissais pas ce camp-là, mais un peu. Ils se ressemblent beaucoup, les camps, les uns aux autres. Et que je trouvais qu'il racontait très mal. Je trouvais qu'il racontait très mal parce qu'on ne pouvait pas comprendre ce dont il parlait si on n'était pas, si on n'avait pas vécu ça. Et c'est peu à peu, dans cet endroit-là, que j'ai commencé à écrire mon récit à moi, un peu comme si, après ce long silence personnel, cette voix de quelqu'un d'autre qui me parlait de ce passé m'obligeait, en fait, à reprendre la voix, avec un tout petit peu de présomption littéraire, peut-être parce que j'étais convaincu que je pourrais le raconter mieux que lui, mais que de toute façon, ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que cette mémoire-là ne s'efface pas.
Vous écoutez La Compagnie des auteurs, nous parlons et nous écoutons Georges Semprin, Martha Ruiz Galbété. Il y a, quand on entend cette archive, l'impression qu'il a presque écrit contre les autres récits, contre les autres souvenirs des déportés.
Alors il y a un constat de base, c'est que toute l'écriture de Semprun est engagée. Parfois dans un sens politique, parfois dans le sens d'une transmission, d'une lutte contre l'oubli. Et il y a donc un aspect très didactique. C'est un narrateur qui tient le sens du récit, qui parfois le verrouille, qui instaure un niveau de redondance entre les plans de la narration relativement incroyable.
Donc c'est pas très ouvert comme interprétation, il nous dit ce qu'il faut en penser.
C'est absolument fermé, il y a même des romans à thèse politique, je pense à Nechayev et des retours, je pense même au Ramon Mercader. Il y a des thèses politiques, il y a un niveau de redondance, il y a vraiment fermeture de toute possibilité d'interprétation divergente. Et ce petit côté didactique qui vient aussi du travail politique de Semprun, on la retrouve aussi dans le cycle concentrationnaire. Il y avait aussi le gars de Semur dans le wagon. Il y aura ensuite Varizon. Il y a toujours un interlocuteur qui aide les narrateurs à verbaliser le sens qui doit être prêté à l'expérience.
Il n'y a pas que la mémoire, Martha Ruiz Galbété, il y a aussi l'oubli. Mm-hmm. Vous parlez de la stratégie de l'oubli. Qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, je pense que je l'ai dit avant, mémoire rime avec passoire, c'est un processus qui filtre et ne laisse passer que l'essentiel. Mais dans le cas de Semprun, donc en fait, dans tous les cas en général, on ne peut pas le séparer de l'oubli, dans son cas... En dehors de cet oubli plus ou moins légitime qui cicatrise l'expérience concentrationnaire, l'oubli est élevé directement à la catégorie des stratégies de correction narrative. C'est des oublis, c'est des hors-cadres qui agencent, modifient et lissent l'image que le narrateur donne de soi. C'est-à-dire qu'il y a un passé politique et aussi lié à l'expérience concentrationnaire dans lequel l'auteur a des bonnes raisons pour ne pas se mouvoir. Et là, c'est un oubli volontaire, c'est pas un échec de restitution involontaire, c'est une stratégie narrative.
Mmh. Donc l'oubli est totalement nécessaire, c'est ça ?
Il est sans doute nécessaire d'un point de vue vital. On a déjà évoqué cet aspect-là, mais sur le plan narratif, il est nécessaire pour reconstituer et réécrire l'image de soi.
Il y a une épitaphe d'ailleurs qui dit un petit peu ça, c'est celle de l'écriture ou la vie, et Semprin cite une phrase de Blanchot, je vous la lis. Mm-hmm. « Qui veut se souvenir doit se confier à l'oubli, à ce risque qu'est l'oubli absolu, et à ce beau hasard qui devient alors le souvenir. »
C'est une belle phrase, mais il est vrai que quand on a vraiment autant de retours sur la même expérience, ces moments de surexposition où on l'a écrit et l'a réécrit, je crois que le hasard finalement du souvenir a plus une grande place. Je pense, pour vraiment déjà venir dans le concret. Oui, je pense concrètement. Bon, après, ça a déjà été relativement publié et tout le monde en parle. Mais à l'expérience de la cellule communiste de Saint-Germain-des-Prés et à donc le procès David Rousset qui complique énormément le souvenir concentrationnaire.
Merci beaucoup Martha Ruiz-Galbete d'être venue évoquer avec nous la question de la mémoire et de l'oubli chez Semprin. Je rappelle que vous avez publié en 2016, c'est donc récent, Georges Semprin, la mémoire de toute pièce, c'est aux éditions Horizon. Demain, troisième épisode de notre semaine, je recevrai d'abord Régis Debray qui a préfacé les exercices de survie de l'auteur espagnol dans la collection Folio Gallimard et en seconde partie Corinne Benestroff avec qui nous parlerons d'écriture et de résilience. Mais tout de suite, c'est Jacques Bonafé, il continue de nous lire la poésie de Ted Hughes.
Bonjour. Dans Birthday Letters, Ted Hughes tente de se défaire du poids tragique qui pèse sur lui depuis le suicide de sa femme Sylvia Plath. Lorsque le livre est publié, il est au sommet poète national laureate par décision royale depuis 84, depuis 13 ans. Le grand poète, regardez bien ce monstre, regardez combien il est difficile d'évaluer ce qui relève justement de la monstruosité dans cette apparence très ordinaire, ni gros ni maigre, les cheveux ni clairs ni foncés. L'aspect général d'un apprenti peintre en bâtiment, au milieu d'une assemblée de grands architectes, timide comme une souris et pourtant monstre fatal. Extrait d'un poème de Teddy Hughes. Vie en rêve, dans Birthday Letters. Comme si tu descendais chaque nuit pendant ton sommeil dans la tombe de ton père, tu semblais avoir peur de regarder ou de te souvenir. Le matin suivant de ce que tu avais vu, lorsqu'il arrivait que tu t'en souviennes, tes rêves étaient mers engorgées de cadavres, atrocités de camps de la mort, amputations de masse. Ton sommeil était, je crois, un mausolée couvert de sang, et sa relique sacrée, la jambe amputée, gangrénée de ton père. Pas étonnant que tu aies peur du sommeil. Pas étonnant que tu te réveilles avec les mots « pas de rêve ». Extrait de La Machine. L'obscurité te dévorait et la peur d'être broyé. Une énorme machine obscure, la meule grinçante indifférente des circonstances. Alors que tu venais de regarder le soleil couchant, son œil orange, ce sont les mots que tu as écrits. Ils étaient venus à toi, eux, et pas moi. Tu essayais de me faire apparaître dans l'escalier par la force de la volonté, et cette terreur est venue à la place. Pendant ce temps, je devais tout simplement être avec Luca, sans intention plus précise. Qu'en aurais-tu, mon chien, si j'avais eu un chien? Un chien réel aurait pu fixer le vide, les poils dressés. Poils, plumes, bec, griffes, les textes du chasseur Ted Hughes, du chasseur indien, sont peuplés d'animaux. La panthère dans Trophée. La panthère, une fois déjà, elle t'avait traîné, mâchoire serrée, à travers l'Europe, à la remorque entre ses pattes, ta bouche grande ouverte pour crier ou ne criant même plus, te laissant simplement traîner. Crow, crow, le corbeau, crow. Au commencement fut cri, qui engendra sang, qui engendra œil, qui engendra peur, qui engendra aile, qui engendra os, qui engendra granit, qui engendra violette, qui engendra guitare, qui engendra sueur, qui engendra Adam, qui engendra Marie, qui engendra Dieu, qui engendra rien, qui engendra jamais, 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 qui engendra Crow, le criard. Il réclame du sang, des larves, des croûtes, n'importe quoi, coude nu tremblant dans la crasse du nid.
Ted Hughes lu par Jacques Bonafé, bientôt 16h sur France Culture. Ce sont les sciences avec Nicolas Martin.